sommes arrêtés, afin que Dieu,
où nous trouvons là que les quelques sentiments du Père vis-à-vis du Fils, l'amour du Père pour le Fils. Dans les psaumes, et en particulier dans le psaume 102, nous avons les sentiments du Fils. Ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais dans cette portion placée devant nous, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient nous dire ce qu'il a fait. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Ce matin, il y a eu un appel de fait à ceux qui ne pourraient pas se réjouir. Oh, puissions-nous, les uns et les autres, relire pour nous-mêmes ces passages et dire certainement, lui a porté mes langueurs et s'est chargé de mes douleurs. Considérez celui qui est là, qui se donne, celui qui peut dire, voyez, c'est une douleur, comme ma douleur à moi que l'Éternel affligé au jour de l'ardeur de sa colère. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui, celui qui convainc de péché, mais celui aussi qui prend ces choses qui sont à Christ pour nous les communiquer, puissions-nous les saisir pour nous-mêmes et pour nous, chers achetés. Oh, que ces passages aient une valeur toute particulière, considérant l'œuvre merveilleuse qui a été accomplie une fois pour toutes à Jérusalem.
Nous avons dans ce chapitre toute l'humiliation du Messie, notre bien-aimé Sauveur. L'humiliation de la mort, oui, mais aussi son chemin d'humiliation, toute sa vie, toute sa carrière. C'est ce que nous présente peut-être plus particulièrement les premiers versets. Il sort, il montera que devant lui, devant Dieu évidemment, comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. La terre aride, c'est le peuple d'Israël, ce qui devait être une vigne féconde portant du fruit pour Dieu, n'a été qu'un désert aride, n'a rien porté. Mais de cette terre monte un rejeton, le vrai fils David, celui en qui maintenant Dieu trouvera son plaisir. Nous l'avons dit tout à l'heure, celui qui reprend l'histoire d'Israël comme le vrai serviteur, tout à la gloire de Dieu, un rejeton, une racine. C'est celui qui nous est présenté tout à la fin de l'Apocalypse, à la fois comme la racine et la postérité de David, à l'origine, et puis dans toutes les conséquences. Toutes les grâces assurées de David sont là, dans ce vrai fils de David. Il monte, il paraît là devant Dieu, prenant cette place. Il naît ainsi sur la terre. Il est annoncé comme le fils de David. L'ange dit, le royaume de David son père est à lui. Voilà le Messie annoncé. Il monte devant lui. Mais il ne vient pas dans tout l'éclat dans lequel l'attendaient ses fils d'Israël attachés aux apparences, à la forme, à l'éclat. Non, il n'a ni forme ni éclat. Il vient, comme l'a bien annoncé le prophète, comme celui qui ne fait pas entendre sa voix dans les rues et qui ne froisse pas le lin qui fume à peine. Il vient, non pas en conquérant superbe, mais dans une humilité qu'il place tout proche des plus humbles. Et il n'est pas reconnu. Il n'a ni forme ni éclat. Alors, quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Me dira un Israélite pieux pourtant, Nathanaël. Que peut-il venir de bon? Et tout au long de sa carrière, c'est la même méconnaissance de ce qu'il est. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Ni forme, ni éclat. Point d'apparence. Et alors, il est parçu. C'est chez soi qu'il vient, dans son peuple, lui le roi, il est parçu. Bien au contraire, il est méprisé. Et ce terme revient par la suite encore. S'il y a quelque chose qui caractérise l'opinion des hommes à l'égard de celui qui vient en grâce vers eux, c'est le mépris. Il est méprisé. Bien des psaumes sont pleins de ce caractère de mépris des fils d'Israël pour celui qui était en réalité leur roi. L'opprobre l'accompagne tout au long de sa carrière. Un opprobre auquel il était divinement sensible, l'opprobre m'a brisé le cœur, dit-il au psaume 69, le mépriser. Sans doute, ce mépris a-t-il eu sa note culminante à la croix, lorsque tous ensemble, le peuple tout entier, avec à la tête les principaux, sont là à injurier, insulter, le crucifier, mais tout au long de sa vie, méprisé. Nous n'avons eu pour lui aucune estime. Délaissé les hommes. Si même les miracles qu'il opérait et qui étaient une démonstration indéniable de sa divinité pouvaient toucher certains, nous voyons que dès que se posait la question de suivre un Christ humilié, il le laissait. C'est le début de l'évangile de Jean. Beaucoup crurent en lui, en voyant les miracles qu'il faisait. Jésus ne se fiait pas à eux, car lui savait bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et il n'a pas besoin que personne rende témoignage à l'égard de l'homme. Et quelques chapitres après, au chapitre 6, eh bien, nous les voyons qui disent « Oh, cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Et ceux qui l'avaient suivi un moment se détournent de lui, délaissés des hommes. Homme de douleur. La souffrance a été sa part de façon infinie sur la croix. Mais la souffrance a été sa part tout le long du chemin. Et nous avons vu à la fin du chapitre 52, visage défait, plus que celui d'aucun homme, plus que celui d'aucun fils des hommes, homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur. Mais quelqu'un à qui la douleur était le lot chaque jour. Et nous ne pouvons pas ne pas ajouter en passant que il y avait en même temps pour lui une joie inaltérable, parce que toutes ses sources étaient non dans les choses extérieures, mais toutes en son Dieu. Ce sont les expressions du psaume 16, n'est-ce pas? Son cœur pouvait être consumé, comme suivant les expressions d'Azaph, mais lui-même, n'est-ce pas, pouvait dire « L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Un bel héritage m'est échu. Pourquoi ? Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Dans un chemin de souffrance continuelle, il était là, jouissant intensément son âme de ce qu'il était là pour Dieu, et dans une communion ininterrompue avec lui. C'est deux côtés, souffrance et joie en Dieu, pour nous, joie dans le Seigneur, ont caractérisé de façon parfaite celui qui en toute chose est notre modèle, et, nous le disons en passant, c'est le lot normal du chrétien. C'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, et avec cela, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais il est inégalable dans ce chemin. Il est par excellence l'homme de douleur, l'homme sachant ce que c'est que la langueur. Une souffrance continuelle de celui qui voyait tous les ravages que Satan avait effectués dans ce qui était sa possession. Une souffrance de Jésus pleurant au tombeau de Lazare, pleurant en voyant où le péché avait amené sa créature. Souffrance de celui qui, nous l'avons dit, divinement sensible, était exposé à cette contradiction continuelle des pécheurs contre lui-même. Souffrance de celui qui avait à supporter toute la dureté de cœur de disciples bien ignorants. Souffrance multipliée tout au long de sa course. Nous arriverons tout à l'heure aux souffrances de la croix, mais là déjà. Et dans un tel chemin, car si nous trouvons un peu plus loin, et que il a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs, cela se réalise tout au long de son chemin. Il est là, apportant la guérison. Comme quelqu'un de qui en cache sa face. On cachait sa face de devant l'épreuve. Il n'est pas de degré auquel l'homme ne l'est rabaissé. La conclusion du verset, on reprend, il a déjà été dit, il est méprisé, et il est repris, il est méprisé à nouveau. Nous n'avons eu pour lui aucune estime. Qui est-ce qui n'a eu pour lui aucune estime? Ses contemporains, sans doute. Ceux qui vivaient de son temps. Mais d'une façon générale, c'est l'homme. Et aujourd'hui, de quelle estime est entouré le nom de Jésus? Ah, les sarcasmes, les moqueries, oui. Un nom honni. Et honni, plus particulièrement par les fils de son peuple. Par les fils d'Israël. Aucune estime.
Ce qui est touchant dans ce prophète Ésaïe, c'est que le prophète nous entretient beaucoup du Seigneur. Sa naissance, sa mort, sa gloire, son règne, et puis cela va jusqu'au nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais prenons cet exemple de sa naissance. Quand est-ce que le prophète Ésaïe nous parle de celui qui serait appelé Emmanuel? Ce sont des jours bien sombres en Juda, alors que le royaume d'Israël est pour ainsi dire terminé, dans la déchéance la plus profonde, s'éloignant toujours davantage depuis Jéroboam, le premier roi d'Israël, jusqu'au dernier. Il y a une impiété caractérisée. Il serait difficile de trouver un roi pieux parmi le royaume d'Israël, alors que nous entrons plusieurs dans le royaume de Juda. Quand est-ce qu'il nous est parlé de la naissance de Jésus, du Seigneur? C'est un homme qui s'appelait, un roi qui s'appelait Akaz, qui faisait passer son fils par le feu, qui avait fermé les portes du temple, rompant ainsi toutes les relations officielles entre Dieu et son peuple. Alors, Dieu s'adressant à Akaz, lui dit, « Demande-moi un signe. » Akaz ne veut pas demander de signe. Eh bien, l'Éternel vous donnera un signe. Et nous trouvons dans ce chapitre 7 du prophète Ésaïe au verset 14, cette déclaration extraordinaire. Est-ce peu de choses, verset 13, pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez aussi la patience de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec les hommes, pas seulement Dieu avec le peuple d'Israël. Voilà la réponse de Dieu, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais ce qu'il y a de plus touchant dans cette naissance, ce Dieu manifesté en chair, c'est qu'il vient pour souffrir et mourir pour nous. Tu n'as pas pris plaisir aux sacrifices et aux holocaustes qu'on offre continuellement. Alors, j'ai dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il vint dans ce monde, dans un corps par Dieu même formé, pour pouvoir mourir à ma place, à votre place, pour souffrir indépendamment des souffrances de la croix pendant les 3 heures de ténèbres où il expiait mes péchés et nos péchés, nos odieux péchés sur la croix. Il a subi, comme nous l'avons entendu, la contradiction des pécheurs contre lui-même continuellement, de sa naissance jusqu'au moment où il a remis son esprit entre les mains de son Père. Continuellement, cette contradiction des pécheurs contre lui-même l'a accompagné. Mais avant les souffrances expiatoires, il y avait cette ressource pour son cœur. C'était ce qu'on a appelé la retraite cachée de l'amour. C'était son refuge en son Dieu. Sauf pendant les 3 heures de ténèbres. Alors que non seulement le Seigneur Jésus donnait sa vie volontairement comme victime volontaire, il l'a donnée, et c'est ce qui est précieux, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et nous entendons en Gethsémané, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et étant dans l'angoisse du combat, sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant jusqu'en terre. Et alors que la croix profilait son ombre devant lui, il a accepté de prendre la coupe de la main de son Père. Personne ne pouvait le faire mourir, mais lui-même était venu pour donner sa vie précieuse entre toutes, pour vous, des pécheurs, pour nous, des coupables, pour nous, des ennemis de Dieu, ennemis dans nos œuvres et dans notre entendement qui les produisait. Et c'est pour cela que Jésus a donné sa vie précieuse, sa vie sainte. Il s'est offert par l'Esprit éternel, comme celui qui s'est offert par l'Esprit éternel à Dieu sans tâche. Ô chers amis, et alors le Seigneur a accepté de prendre de la main de son Père cette coupe, et il l'a bu jusqu'à la nuit. Le prophète Ésaïe nous parle des gloires aussi, et ces gloires sont liées à cette mort qu'il accomplit pour revendiquer et établir la gloire éternelle de son Dieu. Le chapitre 6 nous entretient de cette gloire qui est liée à ses souffrances de la croix. Dans le chapitre 12, verset 41 de l'évangile de Jean, nous avons cette déclaration. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Mais nous allons encore vers le règne. Il doit régner. Est-ce que le Seigneur Jésus, qui est venu comme Messie et qui a été rejeté, ne doit-il pas régner un jour? Il régnera avec son Église bientôt. Mais alors, chers amis, il régnera parce qu'en tant que Fils de l'homme, il a laissé sa vie pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et alors, tout l'univers lui sera soumis, et ce n'est qu'à la fin, quand ses ennemis seront anéantis, qu'il remettra le royaume à Dieu le Père.
La réception que l'homme a faite de celui que Dieu, dans son grand amour, lui a envoyé, mesure là dans quelles ténèbres l'homme se trouvait. Et combien il était loin de Dieu. Celui que Dieu, ainsi duquel il pouvait dire que c'était une pierre choisie, précieuse, eh bien l'homme l'a méprisé et n'a eu aucune estime pour lui. Qu'est-ce qu'il fallait pour faire face à une telle ruine, à de telles ténèbres, l'amour. Il fallait l'amour. Et c'est ce que nous voyons ainsi se manifester tout le long du chemin de notre Seigneur. Il y a cette expression de l'évangile de Jean qui nous fait mesurer ainsi dans quel état moral se trouvaient les hommes. Et il était, lui, c'était ce verset-là, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Physiquement, quand la lumière, lui, les ténèbres s'en vont, mais moralement, non. C'était la dernière épreuve à laquelle Dieu soumettait l'homme. Il l'avait soumis à toutes sortes d'épreuves depuis le jardin d'Éden. C'est la dernière épreuve. J'ai encore un unique fils, bien-aimé, je le leur enverrai. Dieu, c'est ainsi dire, une fois que l'homme a montré ce dont il était capable quand il était sous l'esclavage de Satan, parce qu'il était esclave de Satan. C'est devant la puissance et le pouvoir de Satan que la puissance de l'amour et de la grâce devait se déployer. C'était Satan qui était là. C'était cette dernière épreuve à laquelle l'homme a vu. Dieu, une fois, pourrais-je dire, il pouvait être, comment dirais-je, libre moralement, quand l'homme a montré ce dont il était capable, ce qu'était la chair, il était libre moralement de se retrancher sous la souveraineté de sa grâce et devant de telles ténèbres manifester ainsi et la vie et la grâce et le pardon et le rachat, toute cette œuvre merveilleuse de la croix qui, avant toute chose, si elle sauve les pécheurs, il ne faut jamais oublier, avant toute chose, elle glorifie Dieu. Dans un lieu où le péché régnait, où la mort régnait, où Satan était ainsi le prince. Quelle gloire pour Dieu! Combien Dieu a montré là qu'il était au-dessus du mal. Combien Dieu a montré par là ainsi qu'il pouvait faire face d'une manière efficace, précieuse, glorieuse à toute cette ruine morale dans laquelle l'homme était tombé. Mais, il ne faut jamais l'oublier, il fallait et c'était nécessaire que le Christ souffrit ces choses. Elles sont là, ces souffrances sont là pour nous encore en cette journée, dans ce chapitre. N'oublions pas, il faut bien séparer les deux choses. Les souffrances que le Seigneur a endurées, souffrances pour la justice, souffrances d'un amour méprisé, souffrances, comme on l'a dit, de voir dans quelle ruine l'homme était tombé par le pouvoir de Satan, et supposer que tout cela se soit arrêté là. Nous ne serions pas sauvés. Pour ôter le péché, il fallait plus que cela. Pour nous racheter, il fallait plus que cela. Pour revendiquer toute la gloire de Dieu, il fallait plus que cela. Il fallait avant tout les souffrances expiatoires. Les 3 heures de ténèbres. Le moment où, selon cette expression, le Seigneur livre son âme pour le péché. C'est là. C'est insondable. Et c'est ce qui est ainsi placé devant. Que n'a-t-il pas rencontré de la part de l'homme, Seigneur? Combien ont été grandes ses souffrances quand il marchait au milieu d'un monde ainsi souillé, corrompu et sous l'esclavage de Satan? Qui pourra dire les souffrances qui ont été les siennes en traversant un tel monde? Parce qu'il ne faut jamais oublier que celui qui était là, il était saint. parfaitement saint. Il avait horreur du mal, horreur du péché. Et si nous savions saisir la sainteté qui était ce qui caractérisait notre Seigneur, cela nous ferait un peu comprendre les souffrances qu'il a dû endurer en traversant ce monde. Mais il avait la course. Et l'apôtre peut dire qu'il a méprisé la croix. Et il a enduré la croix. Il n'est pas dit qu'il a méprisé la croix. Il a enduré la croix. Il a méprisé la honte. Il a fait son chemin dans la puissance de son amour et de son obéissance, allant son chemin dans cette puissance-là. Mais il n'est pas dit qu'il a méprisé la croix. Il a enduré la croix. C'est-à-dire, il a traversé avec toute la patience de celui qui se donnait volontairement et qui avait à cœur la gloire de Dieu. Il a traversé toute cette souffrance en pouvant dire « J'ai attendu patiemment l'Éternel. »
Encore le contraste frappant. Qui était-il ? Épître aux Philippiens, lequel étant en forme de Dieu. Épître aux Hébreux, le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Volontairement, ici, il n'a ni forme ni éclat. Je suis un ver et non point un homme. Est-ce que cela parle à nos cœurs de racheté? Normalement, nous, nous sommes caractérisés par aussi la différence. Nous n'aimons pas être abaissés. Nous n'aimons pas être méprisés. Nous n'aimons pas être foulés. Nous sommes orgueilleux, terriblement orgueilleux. Et il veut nous briser. Quel exemple ! Ni forme, ni éclat. J'ai pensé que quelquefois, dans le bureau, on pourrait mettre ces deux petits mots, sans vouloir devenir légaliste, mais il nous parlerait de lui. Ni forme, ni éclat. Et cela nous ferait baisser la tête en pensant à lui. On vient de parler de ses souffrances, homme de douleur, 3 ans et demi de souffrance, et sûrement avant, parce que combien il devait souffrir en contact avec le péché dans ce monde, lui, le saint et le pur. Homme de douleur, en 3 expressions, tout un abîme. Chers amis, nous souffrons sur la terre, et le racheté souffre. Et nous lisons dans la parole qu'il a tout connu, et il peut nous comprendre. Celui qui a été fatigué au puits de Sicar, celui qui a connu les douleurs ici-bas, celui qui a été méprisé, il peut, il veut, il sait nous comprendre, comme nul autre ne nous comprendra. Oh, que nous le connaissions comme sauveur, mais que nous le connaissions comme l'ami vers lequel nous venons, vers celui dont nous parle l'Épître aux Hébreux à tant de reprises, trouvant près de lui le secours dont nous avons besoin, un cœur qui comprend, un cœur qui vibre, parce qu'il a tout connu étant homme ici-bas. Encore un mot. Pour qui et par qui a-t-il été l'homme de douleur? Pour moi. À cause de moi, à cause de nous, à cause de toi qui peut-être est loin, jeune ou plus âgé, il a dû venir. Il a fallu rien moins que cela. Un jeune demandait, il y a quelque temps, peu de temps, mais n'y avait-il donc pas d'autre moyen pour nous sauver? A-t-il fallu que Dieu donne son fils et le fasse mourir? Oui, pas d'autre moyen. Il n'y en avait pas d'autre. Il a fallu qu'il connaisse la douleur, il a fallu qu'il connaisse l'abandon de Dieu, il a fallu qu'il connaisse tout, toute la honte, la coupe, il l'a bu jusqu'à la lie. Mais c'est pour moi, c'est pour toi. Passerais-tu donc en vain?
Toute sa vie durant, le Seigneur a été l'homme de douleur. Excepté peut-être pendant les 3 heures de ténèbres où prophétiquement il a dit « Je suis l'homme ». Je suis l'homme non pas de douleur. Je suis l'homme qui ait vu l'affliction par la verge de sa fureur.
Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Il y a l'appréciation de l'homme. Nous n'avons eu pour lui aucune estime. Il y a cette erreur d'appréciation foncière de ceux qui sont dans les ténèbres, qui ne peuvent rien voir de cette lumière. Erreur foncière. Et en contraste, une certitude, certainement. C'est la parole de ceux qui ont été enseignés. Ils ont saisi la révélation de Dieu avec une pleine certitude, comme une chose absolument certaine. Lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Voilà le raisonnement du cœur humain. Mais en contraste, la vérité de Dieu, il était là, portant nos langueurs, chargé de nos douleurs. Nous savons que le verset est repris dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant « Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies », ce qui nous autorise bien à dire que ce que nous avons là, dans ce verset 4, c'est la sympathie absolue de celui qui prenait à son compte toutes les douleurs qui l'environnaient. Non seulement il a porté la guérison, mais il a porté la sympathie de son cœur divin. On a dit tout à l'heure que ces sympathies nous étaient toujours acquises, maintenant. Mais lui était là, prenant à son compte les conséquences temporelles du péché, et apportant en contrepartie la guérison. Mais quand nous allons un peu plus loin, il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Sans doute, déjà dans toutes ces souffrances, dans lesquelles les souffrances de sa créature qu'il portait en sympathie, il y avait bien là les conséquences du péché. Mais nous commençons à entrer là, dans cet autre côté merveilleux. Blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Et le résultat? Le châtiment de notre paix a été sur lui. Le châtiment, nous dirions le châtiment dû à toutes nos iniquités. Ah oui, c'est bien cela. Notre châtiment, mais dans une expression d'un raccourci remarquable et condensé là, le moyen et les résultats glorieux. Le châtiment, notre châtiment. Mais les conséquences, le châtiment étant porté par lui, pour nous, c'est la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà qui va plus loin que la guérison du corps. Nous sommes sauvés. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Ses meurtrissures, c'est notre guérison. Nous sommes guéris. Ceux qui parlent là prophétiquement sont ceux dont nous parlions ce matin, n'est-ce pas? Ceux qui ont été saisis par la grâce de Dieu, qui seront saisis par la grâce de Dieu dans les vies futures. Et il y a un jugement complet passé sur la condition, l'attitude du peuple, qu'ils prennent comme leur propre attitude, tel en Daniel, à l'égard du messager, de l'envoyé. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, le chemin de l'homme. ce chemin de sa propre volonté. Ce chemin, il tourne le dos à Dieu. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout cela va se trouver développé par la suite. Mais voilà un raccourci. Ses meurtrissures sont notre guérison. Il est la paix. Nous l'avons parce que lui a porté notre châtiment. Et qui a opéré tout cela? Dieu lui-même. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au psaume 40, il s'écrit « Mes iniquités m'ont atteint. Elles dépassent en nombre les cheveux de ma tête. Et mon cœur m'a abandonné. Mes iniquités. » L'Éternel faisait tomber sur lui les iniquités de nous tous. Et, victime volontaire pour le péché, il les prenait à son compte. Ces iniquités que d'un côté l'Éternel lui imputait, lui les revendiquait comme siennes. Mes iniquités m'ont atteint. Quelle volonté d'amour et quel déploiement de grâce dans le substitut qui ainsi prend à son compte ce qui entraîne pour lui ce terrible châtiment, châtiment qui nous apporte la paix.
Jésus était sur la croix. Ses contemporains ont estimé qu'il était battu, frappé de Dieu. Et nous pensons à cette parole, 30 pièces d'argent, c'est là le prix auquel j'ai été estimé par eux. Mais, bien aimé, le Seigneur avait calculé la dépense. Il voulait aller jusqu'au bout dans le chemin du dévouement et du sacrifice. Et il avait accepté pour la gloire de son Dieu de mourir volontairement, non pas d'une mort ordinaire, de la mort qui était réservée aux brigands.
Ce qui doit toujours nous arrêter, ce qui doit toujours toucher nos cœurs et nos consciences. Parce que si nos cœurs et nos consciences ne sont pas touchés, il n'y a rien de fait. Nous avons entendu de belles, belles, glorieuses vérités. Mais ce qui doit toucher nos cœurs et nos consciences quand nous sommes mis en présence de telles pages, c'est ce fait qu'il ait fallu rien moins que de telles souffrances pour ôter le péché devant Dieu. Cela nous fait un peu mesurer ce qu'est le péché pour Dieu. Et combien nous le serions bien si nous avions un peu plus conscience ainsi de ces souffrances qui ont été la part de notre Seigneur, combien nos cœurs seraient moins légers, bien moins légers. Combien notre marche serait bien plus sérieuse. Et nous ne dirions pas, comme souvent trop on l'entend dire, quel mal y a-t-il à cela? Dieu ne mesure jamais les choses d'après ce que nous sommes nous-mêmes, mais il mesure les choses d'après ce qu'il est lui-même. C'est là la mesure. Et ce qui est de remarquable et ce qui est souligné dans ces versets, c'est la soumission entière, totale, de celui qui se présente, qui s'offre, qui se place là, pour que Dieu puisse ainsi réaliser tout ce qu'il s'est proposé. Il est là pour supporter tous les coups de la justice divine. Il ne s'est pas tranché. Rien ne l'a mis, en somme, ne l'a protégé devant lui. Il s'est offert. Il s'est offert. Et nous pouvons voir ainsi en cela aussi le fait incompréhensible pour nous que Dieu nous a aimés jusque-là. Incompréhensible. Qu'il n'ait pas reculé devant ce fait de le faire tomber sur lui, son fils bien-aimé, l'iniquité de nous tous. Et il était là pour répondre en pleine perfection à tout l'état qui nous caractérisait. Transgression, iniquité, ennemi de Dieu, soulié depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la terre. Il était là pour répondre à tout. Et il n'y avait que lui qui puisse le faire. On comprend un peu, et c'est ce qu'il nous faut ne jamais oublier. On comprend que le Seigneur, avant d'aller à la croix, ait institué le mémorial de ses souffrances, pour que nous ne nous l'oublions pas. Et c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. S'il y a quelque chose qui est précieux au cœur de notre Seigneur, c'est lorsque, naturellement, il faut dans la dépendance du Saint-Esprit, dans une marche honnête et pure, nous nous souvenions de sa mort. Quelle chose. Annoncer sa mort. Et bien que de ce fait, on se rappelle de ces choses et de ce sacrifice que le Seigneur a consenti volontairement, et bien touche nos cœurs, exerce nos cœurs. Et que ce ne soit pas en vain que Dieu nous ait rappelé ces choses, mais que vraiment cela marque dans notre vie de tous les jours, plus que jamais maintenant.
Et voici maintenant quelques détails sur la perfection de la victime. Il a été, verset 7, il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Les silences. Le silence de Christ. Devant le souverain sacrificateur, devant le Saint-Hédrin rassemblé, que nous rapporte Matthieu, il ne lui répondit rien. Le silence de Jésus devant Pilate, que nous rapporte Jean, il ne lui répondit rien. Avait-il une défense à présenter? Il était venu là pour être condamné. Il était là en même temps pour rendre témoignage. Et s'il ouvre sa bouche, c'est pour rendre un témoignage qui précisément le condamne. Il revendique en effet qu'il est bien le Fils de Dieu devant le Sanhédrin. Il revendique bien qu'il est roi devant Pilate. Les témoignages qu'il rend ne sont pas des témoignages de défense de l'accusé, mais des témoignages à la vérité. Et cette vérité était tellement en contradiction avec la disposition du cœur de l'homme que cela ne pouvait qu'entraîner sa condamnation. Y avait-il besoin d'ailleurs de procès? La cause était entendue d'avance du côté des hommes. Mais quel silence! Mais il y a plus, n'est-ce pas? Il y a les silences à la croix. Le défi monte, nous trouvons cela spécialement peut-être dans l'évangile selon Matthieu, le défi monte, bien, si celui-ci est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Ah, ce silence, cette inactivité, il reste là. Il reste là. Et quel défi qui lui est lancé? Est-il le Fils de Dieu? Va-t-il le démontrer par un acte de puissance qui était tellement à sa portée? il reste là, attaché à la croix. Il fallait bien qu'il reste là, pour que le sacrifice se continue. Et il y a un autre silence. Il y a le silence de Dieu. Car le défi monte vers Dieu aussi. Qui le délivre, s'il tient à lui. Et Dieu garde le silence. Ici, par deux fois, nous trouvons, il n'a pas ouvert sa bouche. Et nous trouvons la brebis muette. On l'a dit tout à l'heure, celui qui se présentait dans la perfection d'une dépendance, d'une obéissance entière. Il n'avait qu'un mot à dire pour que ses ennemis reculent et tombent à terre. Mais il n'était pas là pour une démonstration de puissance. Il l'amène lié au souverain sacrificateur. Il se laisse lier. L'heure approchée où se réaliserait la parole du psaume 118. Attachez la victime avec des cordes aux cornes de l'autel. Il le présente lié. Quel lien pouvait le retenir ? C'était bien autre chose qu'un Samson faisant voler les cordelettes ou les grandes cordes. Une puissance irrésistible était là et il n'ouvrait pas sa bouche. Une brebis muette devant ceux qui la tondent. D'un côté, l'agneau à la boucherie, la victime qui va être immolée. De l'autre côté, la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Oh, la scène du portage de ses vêtements. Sur sa robe, il jette le sort. Le psaume 22 s'accomplit. Et lui, une brebis muette.
Alors que le Seigneur souffrait l'humeur, abandon, un total abandon, Dieu veillait. Dieu voyait toute la scène se dérouler. S'il gardait le silence devant cette audace de ces chefs religieux qui osaient ainsi s'adresser aux crucifiés de cette manière, le Seigneur, notre Dieu, a su souligner la grandeur, la puissance de l'amour et ce qu'était celui qui était crucifié en infirmité. Il y a eu un brigand sur la croix qui a dû déclarer là, celui-ci n'avait rien fait qu'il ne se dût faire. Il fallait que ce soit déclaré. Et puis à la fin, la manière dont le Seigneur a remis son esprit à Dieu le Père, à voix forte, fait dire au centurion, certainement, celui-ci était fils de Dieu. Dieu l'a voulu. Et tels témoignages sont d'une manière très précieuse quand nous considérons dans ces passages celui qui se livre, celui qui se donne, celui qui est une brebis muette devant ceux qui la tondent, qui ne revendique aucun de ses droits et qui est là justement dans tout son amour et dans toute son obéissance.
Il y a eu un autre silence terrible, plus terrible que les éclairs qui jaillissaient du Sinaï, et ce fut le silence de Dieu quand le Seigneur Jésus s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cela aussi parle profondément à nos cœurs. Nos pères se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Lui, il a crié et Dieu s'est tu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses pour vous, pour nous, pour l'Église tout entière?
Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. C'est le commencement du Lévitique.
C'est Jésus qui s'offre tout entier en holocauste d'abord à Dieu, ensuite en sacrifice pour le péché pour nous. Mais dans ce court verset, nous avons tout ensemble. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur.
Dans Deutéronome 15, verset 19, au milieu de ce verset 19, nous lisons « Tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. » Et ici, il a été mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. On l'a fait remarquer dans le cours de sa vie, la vie de Jésus, Dieu a toujours revendiqué la gloire de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Cette toison nous parle de cette gloire morale du Seigneur Jésus que Dieu a revendiqué ici-bas. Et on l'a fait remarquer aussi, même dans son jugement, Jésus a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. Mais pendant les 3 heures ténébreuses, c'était le silence le plus complet. Dieu-même ne prenait pas la défense de Jésus, ne revendiquait pas la gloire de son Fils bien-aimé. Mais, chers amis, en effet, Jésus était seul là. Seul sur la croix, sans qu'un cœur vînt répondre à son cri douloureux, seul l'amour pouvait le maintenir là, le maintenait là, sur le bois de la croix. Mais alors, cette voix que les hommes ont foulé aux pieds, ces hommes, cette toison, cette gloire que l'homme avait perdue depuis longtemps et que, poussé par Satan, il voulait enlever à Jésus et le considérer comme un être inique. L'homme avait perdu depuis longtemps sa toison et Satan en effet voulait l'enlever même. À Jésus, fouler, enlever à Jésus sa dignité, sa divinité. Mais alors, sur la croix, pendant ces 3 heures ténébreuses, même Dieu est resté muet. Mais, chers amis, combien cela est grand. Jésus lui-même, dans son sacrifice, l'Holocauste, sacrifice pour le péché, eh bien, lui, a montré à la face de Dieu et à la face du monde qu'il était vraiment le Fils de Dieu.
Ce qui s'est passé justement dans ces heures-là, le monde, l'homme, n'avait pas droit de regard. Les ténèbres avaient envahi le pays. Ceci se passait seul entre Dieu et celui qui était fait péché pour nous. Pendant 3 heures insondables, le Seigneur a livré là son âme en oblation pour le péché. Nous ne sonderons jamais ces souffrances qui se sont passées là. Pourquoi le Seigneur, notre Sauveur, était traité d'une telle manière par son Dieu? Pourquoi? Pourquoi sa plainte ne montait plus? Pourquoi son chemin était barré par des pierres de taille? Nous disons, c'est pour nous, oui. Mais c'est avant tout, cette vérité qui doit être devant nous, c'est qu'en de tel moment, le Saint, le Juste, celui qui avait horreur du péché, il était fait péché pour nous. Et Dieu le traitait là comme le péché méritait de l'être. Et le côté insondable aussi pour nous, c'est que le Seigneur volontairement s'est placé là pour que Dieu, en une telle circonstance, montre tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. La croix révèle tout. Tout ce qu'est Dieu. tout ce qu'est Dieu. Et remarquez encore une chose, c'est que le Fils de l'amour de Dieu, celui qui avait marché tout le long du chemin dans une entière communion avec son Dieu, avec son Père, celui qui pendant les trois premières heures de la croix montrait tout son amour en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », celui-là, à cause du péché, à cause de notre péché, celui-là a dû publiquement, tout le monde l'a entendu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous répondons « parce qu'il était fait péché et Dieu le traitait comme le péché méritait de l'être. » Quand le Seigneur, justement, a affaire avec la créature, avec les hommes, plus il s'abaisse, plus il s'approche en grâce de sa créature, prenant ainsi sa place avec les méprisés. Alors là, Dieu a soin de souligner ce qu'il est. Attention, que ce soit au Jourdain, que ce soit sur la montagne, la transfiguration, et que ce soit aussi sur la croix. Mais quand il s'agit de régler d'une manière définitive et éternelle la question du péché, quand il s'agit d'abolir le péché de devant les yeux de Dieu, eh bien Dieu fait tomber sur lui toute sa colère et les exigences de sa justice. C'est des choses insondables. Et nous devons toujours demander à Dieu qui nous fasse entrer toujours plus dans la connaissance de ces choses qui sont révélées à la croix du calvaire. Et vous savez, il y aura une conséquence heureuse sur notre vie de tous les jours, sur notre marche dans ce monde. Prenez par exemple l'épreuve. Nous en connaissons tous l'épreuve. Le fardeau souvent est bien lourd. Les circonstances sont bien difficiles. Les souffrances morales sont peut-être les plus douloureuses que les souffrances physiques. L'ennemi, à ce moment-là, aurait vite placé dans nos cœurs quelques doutes, quelques suggestions. Oh, tu t'aimes pas. Comment peut-il permettre que tu traverses un de tels fonds? Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire? Comment il faut répondre à de telles suggestions? Aller à la croix. Et là, je vois briller tout l'amour de Dieu, tout l'amour de Christ, et je puis dire avec certitude que cet amour ne changera jamais, et de cet amour, je ne serai jamais, jamais, jamais séparé.
Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché. Non seulement le Seigneur Jésus a été fait péché, mais c'est à la croix. C'est à la croix il devait y avoir pour l'absolution des coupables que nous sommes, la condamnation du péché dans la chair du Fils de Dieu. Eh bien, dans les moments où le Seigneur Jésus, privé de la communion avec son Père, abandonné de son Dieu, alors qu'il était sans repos, sans secours, sans réponse, la foi du Seigneur, la confiance du Seigneur est restée inaltérable. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Hébreux. Je me confierai en lui. Et alors, ô bien-aimé, alors, Dieu ne pouvait faire autrement que de le ressusciter par sa gloire, la gloire du Père.
Quand il nous a dit que le Seigneur a été fait en ressemblance, bien, il faut bien le souligner, en ressemblance de chair de péché, pour que Dieu puisse condamner le péché, pas les péchés, c'est le péché dans la chair. C'est-à-dire en Christ. Parce qu'il faut bien faire la différence. Nous avons commis des péchés et nous sommes pardonnés. Mais l'arbre qui a commis ses péchés, jamais de pardon pour lui. Jamais, jamais. Ne parlons jamais de pardon pour la vieille nature. La vieille nature a sa place dans la mort. C'est à la croix. Et heureusement que c'est toujours précieux, c'est toujours remarquable, c'est que c'est Dieu, il a été fait en ressemblance de chair péché pour que Dieu condamne en lui, par lui, le péché dans la chair. Autrement dit, c'est une entière délivrance pour tous. Pardon de nos péchés et condamnation éternelle du vieil homme que nous avons toujours avec nous, mais que nous sommes amenés, et par la puissance du Saint-Esprit, à tenir toujours à sa place. Vous savez, quand est-ce que je baisse? Quand je laisse agir la vieille nature. L'homme nouveau ne pêche jamais. Jamais, jamais. Si je pêche, si j'ai convoité naturellement son réveil, c'est la vieille nature qui est là et qui est en activité. C'est ce que nous faisons l'expérience dans le chemin, nous en faisons l'expérience. Il ne faut pas bien faire beaucoup de pas dans le chemin du chrétien pour voir ainsi que la chair est toujours là pour revendiquer ses droits. Mais ce passage de Romains nous place devant cette vérité éternelle. Dieu a condamné le péché dans la chair parce que Jésus a été fait en ressemblance de chair de péché.
L'exactitude et la minutie des prophéties est remarquable. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, ce silence annoncé à l'avance, amené comme un agneau à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Il ôtait l'angoisse et du jugement, sa génération qui la racontera. Ce sont les expressions mêmes qui sont lues par l'Éthiopien et qui éveillent son attention. Et puis, il a été retranché la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé. Ce verset vient là pour nous rappeler que le sujet, si nous prenons tout cela à notre compte avec juste raison, le sujet initial, c'est bien le Messie souffrant pour son peuple, à cause de la transgression de mon peuple, Israël. Lui a été frappé. Mais puis alors, le détail des détails annoncés à l'avance. On lui donna son sépulcre avec les méchants. Il a été avec le riche dans sa mort, que nous trouvons réalisé dans les évangiles. Sa part devait être avec les suppliciés, jetés hors de la ville. Dieu pourvoit à ce que celui qui a été mis au rang des iniques et qui aurait dû l'être dans sa sépulture est pourvu d'un sépulcre neuf dans lequel personne n'avait jamais été mis. Il n'était pas possible que son sein voie la corruption. Il n'était pas possible qu'il ait sa place dans la fosse commune. Un sépulcre neuf, taillé dans le roc. Et les prophéties se sont accomplies dans absolue réalité. Il n'est pas possible que ton sein voie la corruption. Ah, nous pouvons penser que c'est d'un sépulcre qui n'avait pas vu la corruption du Saint-Fils de Dieu et qu'il est sorti ressuscité et victorieux. Et puis, voilà les côtés extérieurs. Voilà tout ce qui a trait à la part de l'homme dans la mort du Fils de Dieu. Et nous arrivons ici à ce dont il a été longuement parlé déjà, qui est le nœud même de la question, le côté de Dieu. Pourquoi tout cela? Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumise à la souffrance. Nous sommes confondus. C'est la volonté d'amour de Dieu qui était là à l'œuvre. La volonté d'amour du Dieu Sauveur, meurtrissant son bien-aimé, pour le salut de son peuple, oui, et puis pour le salut des multitudes qui croiraient en lui, il l'a soumise à la souffrance. Il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances, Hébreux 2. Il ne pouvait pas en être autrement. Cela convenait pour Dieu. Dieu est présenté dans sa souveraineté, dans ce passage d'Hébreux 2, à cause de qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Celui donc qui a la souveraineté absolue, y a-t-il des limites auxquelles il se heurtera? Ce qu'il est en lui-même, sa sainteté, sa justice, il convenait pour lui. Il fallait, pour que soit concilié tout ce qu'il y avait dans le Dieu, à la fois Dieu d'amour et Dieu saint, il fallait cela. Il convenait pour Dieu. Et ceci se retrouve là dans cette expression « Il plut à l'Éternel de le meurtrir ». Il l'a soumise à la souffrance. Mais lui-même, ressentant profondément cela, n'est-ce pas? Au psaume 22, il y a sa plainte dans toutes les souffrances qu'il endure. Mais puis, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 88. Psaume 88, verset 6. Tu m'as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des abîmes. Ta fureur s'est appesantie sur moi et tu m'as accablé de toutes tes vagues. Ailleurs, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Ce côté des souffrances expiatoires, il les subissait de la main de son Dieu. Il était là dans sa perfection, les subissant ainsi, les recevant, pourrions-nous dire, de la main de son Dieu. Et tous les côtés accessoires, toute la part qu'a eu l'homme dans cette scène, pour ainsi dire, s'estompe. Nous sommes là, au sein même, au centre même de cette scène. Il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il fait passer sur lui toutes les vagues et tous les flots de son courroux. On l'a dit tout à l'heure, pourquoi? Il était fait pécher. Et nous complétons la phrase. Dieu l'a fait pécher pour nous. Dieu l'a fait pécher pour nous. Nous revenons sur ce côté, parce qu'il n'est rien sans doute qui soit à même de faire jaillir de nos cœurs une reconnaissance pressée que les vocations de ce côté de la croix, de ces souffrances infligées par le Dieu saint, il a soumis à la souffrance, il n'eut plus de le meurtrir parce qu'il était fait péché pour nous.
Aussi à souligner dans ces versets la pleine, parfaite, entière communion entre le Père et le Fils. Car si d'un côté, et comme on nous l'a rappelé, nous voyons l'Éternel meurtrir celui qui se plaçait là volontairement et plut à l'Éternel de le meurtrir, et l'a soumise à la souffrance, de l'autre côté, nous voyons cette pensée, s'il livre son âme en sacrifice pour le péché. D'un côté, Dieu le frappe, mais de l'autre côté, lui se livre. Il se place volontairement sous les coups de la justice. C'est cette communion parfaite, jusqu'à la fin. Car nous pouvons bien dire que dans ces heures, trois heures sombres de la croix, le Seigneur n'a jamais perdu confiance en son Dieu. Jamais. Pendant que j'attends mon Dieu. Et il était là, justement, se plaçant dans une telle, une telle position pour que tout ce qu'est Dieu puisse par lui, par cette offrande volontaire, puisse être ainsi par lui pleinement, éternellement, glorieusement révélé. Il plut à l'Éternel et livre son âme humaine.
La seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Et l'autre verset dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 10. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, il y a à la fois, comme nous l'avons vu déjà, les douleurs, les souffrances morales de Christ, ces souffrances dont le Seigneur parlait à ses disciples lorsqu'ils étaient réunis avec lui à Césarée de Philippe, où il a dû leur dire « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des sacrificateurs, des scribes et des anciens, des souffrances qu'il répète par trois fois. » Et ces trois fois, nous les voyons aussi dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Ce sont ces souffrances morales que le Seigneur a endurées du fait de voir son peuple, et en particulier ceux qui en étaient les conducteurs, refuser son amour. Et pour le Seigneur, le refus de son amour a été une douleur constante et une souffrance. À côté de ces douleurs morales, il dut subir, comme on vient d'en parler et comme ce chapitre 53 en parle longuement, les souffrances expiatoires de la croix. Pour le Seigneur, mourir sur la croix était une perspective qui l'angoissait, certes, mais ce n'était pas ses souffrances physiques qu'il allait endurer, qui posaient pour lui la raison de son angoisse. Le Seigneur, le Fils de Dieu, lui, cette sainte chose, celui qui, comme nous l'avons lu aussi bien sous la plume de l'apôtre Paul que sous celle de l'apôtre Pierre, qui était sans péché, qui était juste, allait être considéré comme le pécheur, comme celui qui était injuste. Et Paul a dû écrire dans une de ses lettres que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qui était devant le Seigneur. Lui, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, allait devoir endurer la mort à cause du péché, alors qu'il fut la seule créature sur la terre qui était sans péché et dont l'accès du ciel lui était assuré. Mais il savait que, hormis ce seul sacrifice que lui seul pouvait accepter et réaliser, jamais les vœux de l'amour du Père n'eussent été satisfaits. Mais quelle lutte, quelle souffrance pour notre Seigneur! Il les exprime dans le jardin de Gethsémané, où il a devant lui précisément cette mort qu'il doit endurer, parce que la mort et le salaire du péché, et sa souffrance, son angoisse, lui font dire par trois fois, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Et cependant, Gethsémané passe. Ceux qui viennent l'arrêter se saisissent de lui, et nous savons qu'à ce moment-là, un de ses disciples, témèrement, essaie de le défendre, et que répond notre Seigneur, « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Et cette coupe, précisément, c'est à Golgotha, c'est sur la croix du calvaire que le Seigneur allait la boire. Et en quoi consistait cette coupe? Cette coupe de douleur insondable, cette coupe de souffrance infinie, c'était cette séparation qu'il devait éprouver de la part de son Dieu avec lequel il fut toujours en communion. Pour lui, sa vie a été une communion constante avec son Dieu. Il a pu dire « ma chair », c'est-à-dire ma raison de vivre, et de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Dans une telle communion, le Seigneur voulait vivre ici, sur cette terre, et nous montrer ce que devait être son sacrifice, ce sacrifice qui lui coûtait ces instants de séparation. Quelquefois, on a fait allusion à cette rupture de communion avec son Père, mais la parole ne nous parle pas de cela. Elle nous parle de cette communion interrompue avec son Dieu. Et pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait exercer la justice contre le péché dans ces moments, si ce n'est ce Dieu saint, ce Dieu qui était outragé par le péché et qui ne pouvait voir le péché devant lui sans le punir, mais qui devait faire exercer son jugement sur cette seule et sainte victime que la terre est connue et portée. Et si tout à l'heure, nous avons pu dire que nous étions étonnés devant le silence du calvaire, devant cet outrage que ces chefs religieux d'Israël proféraient devant le Seigneur Jésus, l'acculant, pour ainsi dire, au comble de son impuissance, celui qui n'avait pas pu recevoir, qui n'avait pas pu supporter, qui le traitait d'imposteur, parce que cet homme de Galilée, ce Nazaréen se méprisait des Juifs de Jérusalem, osait à leurs yeux de se présenter comme un Dieu. Quel outrage pour eux, et quelle satisfaction de voir enfin cet outrage sanctionné par la croix du calvaire. Ah, ils pouvaient lui dire avec ironie, « Ah, c'est les fils de Dieu qu'ils descendent de la croix !» Nous avons été arrêtés par le silence, et de Dieu et du Seigneur, comme une brebis muette, il a été devant ceux qui le tombent. Mais est-ce que le dernier mot n'allait pas être donné à ce Dieu que le Seigneur avait honoré et glorifié? Il y avait la suite. Et quelle grâce pour nous! Si le Seigneur n'est pas descendu de la croix, si Dieu ne lui en a pas donné l'ordre ni le pouvoir, il devait se produire quelque chose d'infiniment plus glorieux et d'infiniment plus probant pour ces incrédules qui s'acharnaient dans leur outrage contre l'agneau saint, victime. Une preuve allait leur être donnée, nous anticipons quelque peu sur les versets qui suivent dans ce chapitre 53. Une preuve de la puissance de Dieu allait leur être donnée. Le corps du Seigneur fut descendu de la croix. Il fut placé dans un tombeau, dans un tombeau qui n'avait jamais servi, un tombeau de riche. Il a été avec le riche dans sa mort. Mais de quelle richesse? Un mort qui ne demeure pas dans le tombeau, et on a rappelé tout à l'heure ce passage du psaume 16. Il ne pouvait demeurer dans la mort. Sa chair ne pouvait voir la corruption, ni son âme demeurer dans le Sheol. Et le troisième jour, au matin de ce troisième jour, une chose la plus éclatante, la plus merveilleuse devait se réaliser. Celui qui avait été crucifié, celui qui n'était pas descendu de la croix, ressuscité d'entre les morts. Voilà la victoire remportée par notre Seigneur. Et cet argument fut si convaincant
que ses ennemis soudoyèrent ensuite les gardiens du tombeau et leur dirent « Oh, ne parlez pas de sa résurrection, mais dites que ses disciples sont venus l'enlever. » Et c'est ce sauveur, c'est ce rédempteur qui est ressuscité, et c'est à sa résurrection que le témoignage fut rendu par les apôtres. Lorsque le Seigneur fut enlevé dans le ciel, toute l'activité, tout le service des apôtres se déploya dans la démonstration de ce témoignage de la résurrection du Seigneur. Et le christianisme, ce christianisme qui est notre salut, qui est l'objet de notre foi, qui nous assure le pardon de Dieu et l'espérance de cette gloire que nous partagerons bientôt avec son Fils, est basé sur cette résurrection. Il a été avec le riche dans sa mort. Combien nous pouvons rendre grâce et gloire à ce Dieu qui a ainsi, dans ses desseins, accompli une telle rédemption. Et pouvons dire avec juste raison ces paroles que Jean exprimait une fois qu'il fut appelé dans cette île de Patmos en exil, mais où il eut cette vision. Et cette vision fut interrompue par ces paroles, et ce sont ces paroles que nous pouvons faire nôtres à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, ce sang répandu sur la croix, et qui nous a fait des rois et des sacrificateurs pour son Dieu et pour son Père, à lui, dès maintenant et toujours, et à toujours, et la gloire et la foi.
Une très courte pensée sur ce que tout à l'heure nous a occupé. Dans Deutéronome 15, Dieu dit « Tu ne tondras pas le premier-né de ta brebis. » Voilà la pensée de Dieu. Dieu désirait que la gloire de son Fils soit revendiquée éternellement. Satan a poussé les hommes à fouler aux pieds cette gloire du Fils de Dieu, et ils l'ont crucifié. Mais alors, dans ces pensées-là, nous avons, dans ces versets, il plut à l'Éternel de le meurtrir. Satan pousse l'homme à fouler aux pieds la gloire de Dieu, la gloire du Fils, et le crucifie. Eh bien, Dieu, comme les hommes peuvent le considérer, il a soumis à la souffrance, il a estimé battu, frappé de Dieu. Eh bien, il est dit ici, il plut à l'Éternel de le meurtrir, comme si Dieu ajoutait, se mettait du côté de l'homme pour fouler, pour mettre de côté Jésus, pour le faire souffrir. Et puis alors encore, il l'a soumis à la souffrance. Alors, Jésus qui est là, de la part de Dieu, abandonné. Il plut à l'Éternel de le meurtrir, il a soumis à la souffrance. Dieu, je répète, comme se mettant avec l'homme pour encore mettre Jésus encore plus profondément dans les douleurs de la mort, dans l'abaissement, dans l'humiliation. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Eh bien, nous le voyons dans Lévitique, le sacrifice pour le péché. La graisse était enlevée, et elle fumait sur l'autel, brûlait sur l'autel, comme il est dit dans la note Lévitique, il est dit, brûler de l'encens. C'est ce mot fumer, c'est les perfections de Jésus qui montaient vers Dieu, là, dans cette douleur, là, de Jésus étant fait péché pour nous, eh bien, la gloire du Fils montait vers Dieu d'une façon pleine, même Jésus étant fait péché pour nous. Et puis alors nous avons, ensuite, il livre son âme en sacrifice pour le péché. Jésus lui-même, comme se mettant du côté de Satan pour s'entuer encore lui, se donne, les hommes le livrent à la mort, les hommes le crucifient, eh bien Jésus se donne lui-même. Et qu'est-ce qu'il est? Quel est le résultat de cela? Eh bien c'est l'Holocauste. Comme nous voyons dans Lévitique 1, le sacrifice, l'Holocauste tout entier, consumé sur l'autel, et sacrifice fume. C'est toujours comme dans la graisse qui est brûlée. Si vous le péchez, comme brûler de l'encens. C'est gloire du Fils de Dieu qui sont revendiqués là à la gloire de Dieu, même dans ce que Satan a pensé faire le plus mauvais pour lui. Eh bien, Dieu contribue dans ce que Satan a voulu faire, à faire briller la gloire de son Fils. Sacrifice pour le péché et holocauste parfait.
Nous avons rappelé ce matin que Jean-Baptiste a vu le Seigneur et a pu dire « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais nous avons dans ce chapitre 53, ce passage de l'Épître aux Hébreux, que Christ a été manifesté pour l'abolition du péché par son sacrifice.
Il a été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu. Il le fallait pour la gloire de Dieu, et rien n'a manifesté les perfections de Christ comme la croix, nous l'avons vu. Rien n'est autant la gloire de Dieu que l'œuvre de la croix. Le Seigneur a sans doute ce qui était devant lui, c'était bien la mort, le jugement de Dieu. Mais elle était aussi, on l'a dit, le salaire du péché, la puissance de Satan. Tout était fait pour détourner le Seigneur d'un tel chemin. Mais en même temps, souvenons-nous ce que le Seigneur dit en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si le jugement tout entier est tombé sur lui, c'est parce que lui seul pouvait le supporter. Et c'est là que brillera éternellement la gloire de Dieu. Rien comme la croix ne manifeste la gloire de Dieu et la gloire de son Saint-Fils. Il ne pouvait pas désirer d'être fait péché, nous le comprenons. Mais en même temps, quelle soumission. Père, glorifie ton nom. Son seul désir, c'était que la gloire de Dieu soit revendiquée, soit manifestée. Elle a été. Et aussitôt, le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas.
La difficulté n'est pas tant dans « Il a été retranché de la terre des vivants », qui se comprend bien, mais que dans « Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera ?» Le passage est certainement difficile, puisque nous avons en note une variante, d'autres, et de sa génération, et qui aurait pensé qu'il serait retranché de la terre des vivants? Si l'on consulte diverses versions, on trouve des traductions fort diverses, ce qui montre la difficulté du passage. Mais nous avons, à l'appui de la traduction que nous avons ici, le fait qu'elle est conforme à la citation d'Actes 8, n'est-ce pas, où nous trouvons la citation à peu près identique, la citation faite d'après les 70, à peu près identique à ce que nous trouvons ici, et s'écartant donc bien des diverses traductions que l'on trouve ici ou là. Verset 32, verset 33 plutôt, dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Donc c'est bien, qui racontera sa génération? J'avoue que plusieurs interprétations peuvent se présenter. Est-ce que cette génération... Il semble de toute façon qu'il y a là quelque chose comme une accentuation de son rejet. C'est placé avant le fait qu'il est retranché de la terre des vivants. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Bon, c'est un peu difficile. Là.
Sa part était là, dans l'angoisse, le jugement. Et bien des explications peuvent être données pour sa génération qui la racontera. Mais il est renié comme le fils David. Il se présente là comme le fils David, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il apparaît là dans le... Il revendique la royauté. Elle lui est reniée. Est-ce que sa génération se rapporterait à cette qualité de fils David? Nous nous trouvons là, je crois, devant un verset qui n'a jamais... Enfin, si quelqu'un a entendu quelques explications, on aimerait les entendre, mais un verset qui reste difficile.
Quand il a dit qu'il a été retranché de la terre des vivants, nous avons pu rapprocher cette pensée de Psaume 102, au verset 23. Il a battu ma force dans le chemin. Il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Terre tranchée. Le jugement a passé, l'œuvre a été accomplie, et sa génération, en somme de vie, et sa génération qui la racontera. Et si nous allons au verset 10, il nous a dit au verset 10, il a dit, s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, c'est ce qu'il a fait. Il verra une semence. Voilà ce qu'il racontera la génération. Le grain de froment étant tombé en terre, il ne demeure pas seul. Il y a des fruits qui sont portés. Et il y a, comme la même pensée, nous la trouvons dans le psaume 22, au verset 30, une semence le servira. Elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Une génération. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qui l'a fait ses choses. Parce qu'on comprend très bien qu'une telle œuvre, qu'un tel sacrifice, ne peut pas avoir des conséquences merveilleuses, éternelles, insondables. Et que cette œuvre, la perfection de cette œuvre, soit soulignée d'éternité en éternité. Et alors, ça sera une semence que nous voyons là, dans le psaume 22, sur la terre, mais nous pouvons voir aussi dans le ciel, tous ceux qui seront là pour bénéfice de son âme. Et c'est pourquoi il se rappelle qu'il a livré son âme. Il a livré son âme pour le péché, souligne et présente ainsi quatre conséquences heureuses, bénies, éternelles à la gloire du Seigneur. D'abord, il verra une semence, c'est ce que nous avons vu, parce que le grain de froment est mort, est tombé en terre et est mort, et il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Il verra une semence. Il prolongera ses jours. Il a dit à l'Éternel, dans ses jours de souffrance, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Que répond l'Éternel au psaume 103, au 102, il répond ceci. Mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Tes années sont de génération en génération. Voilà, il prolongera ses jours. Et pourtant, pour accomplir l'œuvre, pour cette année lui-même, ses jours ont été abrégés. Et puis, troisième conséquence, le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Qu'est-ce que cela fait? Il me semble ceci. Tout ce que Dieu s'est proposé pour son plaisir, pour la satisfaction de son amour, pour la manifestation de tout ce qu'il est, de toute sa gloire, qui est-ce qui pourra faire prospérer tout cela? Qui est-ce qui pourra manifester tout cela? Où est-ce qu'il pourra mettre tout en évidence toute cette gloire, établir la bénédiction sur la terre et former un peuple pour le ciel, pour que Dieu raconte sa loi? Eh bien, le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. c'est tout entre les mains de celui qui est, qui s'est livré en sacrifice. Et puis la quatrième chose, plus précieuse encore, qui touche certainement aux affections les plus profondes et les plus secrètes de ce Rédempteur, il verra du fruit du travail de son âme et ce labour divin sera satisfait. C'est plus qu'il verra une semence. Il verra du fruit du travail de son âme et son amour divin en sera satisfait. Pourquoi? Il a livré son âme en oblation pour le péché.
Toute la meurtrissure de l'âme du Sauveur. Nous trouvons par deux fois l'expression, n'est-ce pas? S'il livre son âme en sacrifice pour le péché. Et puis ensuite, à la fin, dans la déclaration de l'Éternel, parce qu'il aura livré son âme à la mort. Ce n'est pas seulement le corps livré en sacrifice pour le péché, mais son âme, le travail de son âme, et tout ce qu'il a enduré dans son âme à ces heures terribles, aura un fruit. Un fruit, c'est quelque chose de délicieux. Et c'est pour la satisfaction, le fruit nous est souvent présenté comme ce qui répond au désir et à la gloire de Dieu. Ici, le fruit, c'est lui-même qui le goûtera, il sera pour lui ce fruit. Le résultat merveilleux, non pas seulement en gloire, mais comme on vient de le dire, un amour satisfait de tout ce qui a torturé l'âme de notre Seigneur dans ces heures-là. Et puis, alors il faudrait bien peut-être finir. Le dernier mot est à l'Éternel. Il y a plusieurs, c'est sans doute l'Esprit de Dieu qui parle dans les versets que nous voyons là, il verra du fruit du travail de son âme. Mais voilà Dieu qui prend lui-même la parole au verset 12. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands. Et il partagera le butin avec les forts parce qu'il aura livré son âme à la mort et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs et qu'il a porté le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Les motifs sont multiples. C'est tout ce qui a passé devant nous. Mais voilà la sanction que Dieu donne. Nous avons commencé notre lecture ce matin. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Et Dieu donne la conclusion. C'est l'Éternel qui prend la parole. Je lui assignerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les forts. Des images sans doute pour nous montrer l'exaltation de celui qui paraîtra un jour, roi des rois, seigneur des seigneurs. La récompense en gloire donnée par celui à qui il a pu le meurtrir, mais celui à qui il s'est soumis avec une telle perfection.
Dans Philippiens 2, lorsque, après avoir parlé de l'abaissement du Sauveur, nous trouvons aussi l'expression « C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. » Philippiens 2, verset 9.